Une bonne nouvelle d'après Matthieu, lecture suivie de l'évangile de saint Matthieu dans une traduction transposition de Vincent Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
À la fin du discours eschatologique de notre épisode précédent, insistez, vous vous rappelez, sur deux aspects de la, comment pourrait-on dire, la catéchèse de Jésus. C'est d'une part que nous ne savons pas quand tout cela va arriver et que dans cette attente de la rencontre avec Dieu et avec l'éternité, il faut être prêt, ça peut arriver à tout bout de champ, c'est donc une attente, mais que cette attente, premièrement, ne doit pas être passive, il faut s'engager, il faut lutter contre le mal, l'injustice, le péché, et y lutter de façon efficace, mais on ne peut pas toujours réussir avec cette grande espérance que nous sommes pardonnés si nous avons essayé loyalement. En tout cas, le critère, c'est que cet engagement est au service de l'homme, parce que l'homme, dans ce cas-là, est le véritable sacrement de Dieu et de Jésus-Christ en particulier. Nous montons à Jérusalem.
Il avait annoncé les dernières paroles avec une telle insistance. Son tableau du dernier règlement des comptes avait été si plastique que les trois mots qu'il ajouta, presque à voix basse pourtant, firent frissonner leurs disciples en plus que le reste. Vous savez que dans 2 jours, c'est Pâques, eh bien le Fils de l'homme sera arrêté pour être cloué sur une croix. Les chefs des prêtres et les anciens du peuple s'étaient donné rendez-vous dans la cour du palais de Caïphe, le grand prêtre, pour décider l'arrestation et l'exécution de Jésus. Pas pendant la fête, il ne s'agit pas de provoquer le peuple. Jésus, lui, se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux, qui l'avait invité. L'atmosphère était lourde, il y avait des espions partout. On était allongé pour le repas, et voilà qu'une femme entre dans la pièce, un grand flacon d'albâtre à la main. C'est du parfum rare. Elle s'approche de Jésus, qui ne bronche pas, tandis que les autres font le geste de la repousser. Elle verse le contenu du flacon sur la tête de Jésus. Le parfum assez épais plaque les boucles entremêlées sur le large front de Jésus et continue de dégouliner sur ses yeux, dans sa barbe et le long de son cou. Il ne dit toujours rien. Elle, maintenant étonnée de son audace, recule de quelques pas. Les disciples profitent de cette crainte soudaine pour crier leur irritation. « Pourquoi ce gaspillage? On aurait pu en tirer un bon prix et on aurait donné l'argent aux pauvres !» Jésus leur coupa net la parole. « Pourquoi voulez-vous à tout prix lui faire de la peine? J'apprécie beaucoup le cadeau qu'elle m'a fait. Les pauvres les auraient toujours avec vous. Moi, vous ne l'aurez pas toujours. En versant ce parfum sur moi, elle préparait mon corps pour le tombeau. » Et en lui souriant, il ajouta, « Vraiment partout où l'on proclamera la bonne nouvelle, c'est-à-dire dans le monde entier, on racontera aussi ce que cette femme vient de faire et l'on se souviendra d'elle. » C'est à ce moment précis que l'un des 12, le dénommé Judas, originaire de Kériote, prit sa décision. Il se rendit chez les chefs des prêtres. « Qu'est-ce que vous me donnez si je vous le livre ?» Ils lui versèrent cash 30 pièces d'argent. Il ne manquait plus que l'occasion favorable. le premier jour de la fête des pains Azim, les disciples demandèrent à Jésus où il avait l'intention de prendre le repas pascal. « Allez en ville chez un tel et dites-lui de ma part que mon heure arrive et que je désire fêter Pâques chez lui avec vous. » Et les disciples s'en allèrent tout préparer. Le soir tombe, Jésus et les disciples se mettent à table. Bien sûr, c'est la fête, ils sont joyeux, mais cette joie transpire une crainte que révèle Jésus pendant qu'il mange. « Écoutez-moi, l'un de vous va me trahir. » Alors la tristesse remplit la pièce. « C'est moi, Seigneur ?» se met-il à lui demander avec naïveté. « Non, il a déjà plongé la main dans le plat avec moi. Le Fils de l'homme suivra sa destinée comme l'annonce la Bible. Mais malheur à celui par qui il sera trahi. Ah, il aurait mieux valu pour lui ne pas naître. » Judas, qui était encore là, lui demande. « Tu parles de moi, maître ?»« Oui, c'est toi. » Puis un long silence s'établit. On se remit à manger. À un moment, Jésus prit un morceau de pain d'une drôle de façon. Les disciples l'observèrent. Jésus bénit le pain, le partagea et leur donna en disant « Prenez, mangez, c'est mon corps. » Et les disciples mangèrent ce corps. Il prit ensuite une coupe, rendit grâce à Dieu et la leur donna. « Buvez-en tous, c'est mon sang, le sang du pacte, le sang versé pour pardonner les fautes des multitudes. Vous savez, je ne boirai plus désormais de ce vin, jusqu'à ce jour prochain où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et les disciples burent ce sang. Puis on se leva et on chanta le Hallel. Ce sont tous les psaumes de la fête de Pâques. Le cœur n'y était plus, ou du moins, s'il y était, ce n'était pas comme chaque année. Après le chant, on prit la route du Mont des Oliviers, qui longe un temps les murailles, pour plonger ensuite par un raccourci dans le Val du Cédron. En route, vers la nuit bleue, Jésus leur confiait. « Cette nuit, vous allez tous m'abandonner. » La Bible dit « Je frapperai le berger, et tout le troupeau se dispersera. Mais quand je reviendrai à la vie, je vous précéderai en Galilée. » Pierre courut se planter devant lui sur le chemin et lui déclara « Si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. » « Mon pauvre Pierre, cette nuit même avant que le coq ne chante, tu auras juré trois fois que tu ne me connais pas. » Pierre protesta, tandis que Jésus le dépassait déjà. « Même si je dois mourir avec toi, jamais je ne te renierai. » Et tous les disciples lui juraient la même chose en dévalant à la suite la pente du Cédron. On arriva au domaine de Gethsémani, qui signifie le jardin du pressoir à huile. Les oliviers centenaires murmuraient dans l'air nocturne. « Restez un peu là pendant que je m'éloigne pour prier. » Il demande à Pierre et aux deux fils de Zébédée de l'accompagner. Tout le monde tombait de sommeil, à peine assis, on s'endormit. Aux trois qu'il emmenait avec lui, Jésus confia. « Je me sens torturé par une tristesse de mort. Restez ici et veillez avec moi. » Ils acquiescèrent, s'assirent et s'endormirent à leur tour. Jésus avait fait quelques pas, était tombé face contre terre et priait. « Mon Père, si c'était possible, si ce martyr pouvait m'être épargné. Non, non, c'est ta volonté qui doit l'emporter et non la mienne. » Il se ressaisit, retourna vers ses trois compagnons. Ils dormaient à poing fermé dans la nuit de pleine lune. « Pierre, vous n'avez même pas la force de veiller une seule heure avec moi ? Veillez, priez, l'épreuve vous attend. Si votre esprit veut bien, votre corps ne suit pas toujours. » Jésus se retira une deuxième fois. Jérusalem, là-haut, derrière ses remparts, ne se doutait pas qu'un homme rampait au pied d'un arbre en appelant Dieu. « Mon Père, puisqu'il ne peut en être autrement, alors j'accepte d'en passer par ta volonté. » Il tremblait, il transpirait, il pleurait, quand il retourna vers les trois compagnons endormis, emmêlés au pied d'un vieil olivier. Leurs yeux étaient trop lourds. Cette fois-ci, Jésus ne leur dit rien, et s'en alla prier une troisième fois, répétant inlassablement les mêmes paroles, parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à dire.
Quel art du récit! Voici trois scènes aussi émouvantes et prenantes l'une que l'autre. Cette femme prostituée, apprendra-t-on, qui apprend que Jésus est là et qui, de façon à la fois insolente, provocative, mais elle ne s'en rend pas compte, elle veut prouver simplement combien elle apprécie, elle aime cette personne qui pardonne. Elle va lui verser un parfum très rare, peut-être les économies de ses dernières aventures. Et elle est là, placée pour l'éternité, du moins pour le temps et l'histoire. Jésus la regarde et lui dit qu'on l'associera toujours à lui, quelques jours avant sa mort. Parce que c'est en vue de ma mort qu'elle m'a oint le corps de ce parfum. Puisque nous nous rappelons déjà que enterré le soir de la veille du sabbat, on ne pouvait plus faire quoi que ce soit et le corps est resté pendant tout le sabbat non embaumé. Une annonce, une prophétie. Deuxième scène, l'institution de l'Eucharistie, de la simplicité même des drames humains avec le traître qui s'en va, l'indécision, l'atmosphère lourde des repas de départ où on ne sait pas si on va se retrouver, le mémorial est installé, mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas que ça va devenir le cœur même, le centre même des retrouvailles des croyants avec ce pain et ce vin versés pour la multitude. Et enfin, cette admirable, pénible et immense scène au Jardin des Olives, où il rampe à terre comme un ver désespéré, parce que le corps entier refuse d'entrer dans le système de la torture et de la mort. Avec cette reconnaissance de la volonté de Dieu. Vite, vite, la suite.
C'était une bonne nouvelle selon Matthieu, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.